et médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le retour à Ajaccio, dans la maison de Napoléon, un chanteur engagé et libre qui a laissé des traces en nous, et le nouveau roman d'une auteure belge qui fait beaucoup parler de lui. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Il publie une autobiographie dense et intense. Le chanteur Yves Duteil revient sur sa carrière et ses engagements sans rien renier. Une galerie de portraits, des hommages et des anecdotes ponctuent son livre. Il est en plateau avec nous et pour la première fois dans la librairie francophone. L'auteur belge Geneviève Damas revient avec un roman très remarqué en Belgique. Le récit d'une amitié qui dépasse les religions. Deux jeunes aux identités opposées vont se trouver malgré les moments extrêmes de leur vie. Un livre qui peut faire débat. Et puis nous retournerons à Ajaccio pour la seconde partie de notre grand reportage en Corse, dans la maison de Napoléon Bonaparte. On poursuit la visite avec une trappe mystérieuse de la maison. Ce sera avec Odile Bianco, commissaire d'exposition. Et voici nos libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Thomas Auxerre représente la France aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie L'Amandier à Puteaux, toujours du côté de la Défense. Très bien. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la Suisse. On a des problèmes de liaison avec vous, mais tout va bien se passer, vous allez voir.
Je suis désolée, oui.
C'est la méthode Covid qui continue, quoi. Vous êtes libraire à Genève, dans la librairie Atmosphère. Merci d'être avec nous. Nathalie Clairin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous, vous représentez la Belgique. Vous êtes libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Et au Canada, c'est Josiane Nétourneau, de la librairie du Square, à Montréal, qui est avec nous. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
On commence tout de suite avec une anecdote personnelle de votre vie de libraire, Josiane.
Oui, Emmanuel, vous savez, il faut être humble parfois dans la vie et se rendre compte que nos suggestions de lecture ne font pas toujours mouche. Et ça m'est arrivé un jour où un client arrive à la librairie, au comptoir, et il commence à me raconter que une de mes collègues lui a suggéré un livre et qu'il l'avait absolument détesté. Et en fait, il me raconte ça. Et je me rends compte que c'est de moi dont il parle et qu'il ne m'a absolument pas reconnue. Puis il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais plus jeune, je changeais parfois drastiquement de look. Alors j'ai joué le jeu, j'ai renchéri. Et là, il me racontait à quel point c'était horrible. Mon Dieu, c'est incroyable, mais ma collègue vous connaît absolument pas. Alors je lui ai suggéré un autre livre. Il est revenu après et Dieu merci, celui-là, il l'avait aimé.
Franchement, c'est pas éthique, hein, Josiane, ça, hein?
Ah, ben écoutez, on prend les occasions qui passent, en fait.
En fait, vous avez chargé une collègue imaginaire, quelque part.
Oui, puis en fait, je l'ai gardée, cette collègue imaginaire, les années d'après aussi. Je vous raconterai ça un jour.
Oui, vous en avez plein, des anecdotes. C'est la libraire qui a le plus d'anecdotes dans cette émission. C'est sans fin. Bon, merci beaucoup, Josiane. Merci à tous les quatre. Vous interviendrez, bien sûr, tout au long de cette émission.
Je rêve de Brooklyn avec Viré sur Manhattan. Je découvre le graphe, les chapilles, le premier Tracy Chapman. J'échappe à où rachait mon châtiment. Me perdre dans la rue, trop facile pour un enfant. Mon continent, c'était la vieille Europe. Presse, musique, vidéo, direct, j'ai focus sur New York, Cronikes, Kingston, horizon inconnu. Je visite le quartier général des chapeaux des barbus. Residium, Rabat, Rabil ou Babitcher. Je me nourris de Nigunim, Dorsch et Mandy Prager. C'est la bagarre pour trouver du boulot. Je suis designer et je fais la plonge dans un resto. J'investis donc dans le son et dans le style américain, ouais, le choc de l'exil. L'exil, ça fait 2000 ans que ça dure. La force des miens.
Bonjour Geneviève Dama.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette musique de l'artiste franco-israélien Shmoulik. On commence tout de suite cet entretien avec ce titre que vous citez, Geneviève. Vous connaissez cet artiste?
Oui, j'ai cherché, appris à l'écouter, à l'entendre, ouais.
Alors c'est l'un de vos personnages, hein, qui écoute cette musique-là. Vous racontez l'histoire de deux jeunes bruxellois de 17 et 18 ans. L'un est musulman, l'autre est juif et ils vont se rencontrer lors d'un échange scolaire qui ne passe pas chez tout le monde au début.
Mais a priori, voilà, il y a beaucoup de, on a beaucoup de préjugés et c'est vraiment des écoles qui sont situées dans des quartiers différents, avec voilà une sensation, en tout cas dans l'école de d'Ibrahim qui est le narrateur de l'histoire, que c'est pas une très bonne école, d'un réseau qui lui offre un avenir qui est peut-être pas le même que tous les autres Belges comme lui.
Oui.
Il a vraiment l'impression que en tant que musulman dans ce pays, il est moins bien considéré, donc du coup il trouve des coupables. Et rencontrer d'autres personnes d'origine confessionnelle différente, au départ le effraie un peu, il n'a pas, et puis oui, il a vraiment des préjugés. En tout cas, il va rencontrer un jeune d'un athénée juif.
Oui.
Et il ne veut pas y aller.
Qui s'appelle Jackie. Alors, ils vont écrire leurs portraits respectifs, comme ça, lors de cette séance scolaire. Et ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs, en fait. Ça commence comme ça, cette amitié-là.
Oui, je pense que, étrangement, alors qu'il a tellement imaginé qu'il n'avait rien à faire avec quelqu'un qui venait de cet athénée, tout d'un coup, il est surpris parce qu'effectivement, ils sont sportifs, ils aiment le rap, ils arpentent la ville. Donc effectivement, tout d'un coup, ça, c'est une surprise. Et souvent, quand on est très prévenu contre une chose, quand elle se révèle différente de ce que vous avez imaginé, l'effet est d'autant plus enthousiasmant.
Oui, alors surtout, ils vont s'ouvrir à d'autres choses. Ils vont s'enrichir l'un l'autre. Même la musique va les rapprocher, alors qu'Ibrahim est plus porté sur le rap. Et il trouve un intérêt commun pour le groupe Queen. Alors c'est vrai qu'ils sont fans de vélo, Geneviève Dama, vos personnages. Ils rêvent même de faire un grand voyage à vélo tous les deux. C'est un peu leur outil de liberté, ça.
Oui, disons que Jackie a demandé un scooter à ses parents, mais ses parents l'ont refusé. Donc la seule autonomie, enfin quand on ne veut pas dépendre ni des transports en commun ni des parents, le vélo, c'est la trottinette électrique. Mais là, ils sont au vélo, leur donne une liberté incroyable dans la ville.
Ouais. Et cette musique de Queen, alors, c'est le premier rapprochement, ça, entre ces deux personnages qui n'écoutent pas ça à l'origine, en fait. C'est comme une musique universelle pour les deux.
Oui, en tout cas, c'est la musique. Jackie dit, c'est une musique que mes parents aiment et qui finalement est pas mal. Et ce qui touche Ibrahim, c'est qu'en fait, il y a des mots d'arabe.
Eh oui, c'est ça. Et puis la petite sonnette aussi derrière, à laquelle ils sont sensibles, qu'on entend derrière. Par quoi sont-ils entravés, ces deux-là, Geneviève?
Je pense que ils sont entravés d'une part parce que au sein de leur communauté, au sein de leur groupe, ils sont marginaux. Ça veut dire que ils sont considérés entre guillemets l'un et l'autre d'une certaine manière et avec des proportions diverses comme traîtres à leur groupe. Mmh. Et donc ils ont tellement d'images collées à ce qu'ils sont, enfin ils ne parviennent pas à se sortir en fait de ce qu'on voit d'eux, qu'en fait leur salut c'est d'aller entre guillemets avec quelqu'un qui ne les connaît pas et qui n'a pas les mêmes repères.
Mais c'est vrai qu'ils vivent comme ça dans un monde de préjugés que vous reproduisez d'ailleurs très bien, du côté des juifs comme du côté des musulmans. Il y a plein de préjugés. Vous les listez presque, ces préjugés-là, Geneviève.
Mais je ne sais pas si j'ai travaillé comme ça. Je pense que c'est le fait de faire beaucoup d'ateliers, de part et d'autre, de rencontrer les jeunes et parfois de me dire « mais je les entends dire ces choses-là, enfin c'est pas possible ».
Mais il n'y a pas que ça, non ?
Non, bien sûr, il n'y a pas que ça.
Mais
quand on ne connaît pas, on a des jugements péremptoires par ignorance.
Bon, on va revenir sur ce que vous écrivez, Geneviève Dama. On va laisser la parole à nos libraires, tout d'abord, avec La France, Thomas Auxerre. Qu'avez-vous pensé de cet ouvrage, Jackie ?
Alors, moi, ce livre, Emmanuel, je l'ai beaucoup aimé. Je suis rentré dedans vraiment en 3 pages, et puis je l'ai lu jusqu'au bout, sans m'interrompre. Alors moi, pour ce qui est des interrogations, justement, du héros, son parcours, ses envies de changement aussi, moi, ça m'a transporté. D'autant que j'ai trouvé, en plus, que la langue était vraiment très juste. Donc, pour moi, c'est une belle histoire sur l'amitié, sur le partage. Et puis, en plus, ça dit que rien n'est forcément foutu. Donc, en ce moment, moi, j'ai envie de dire, je recommande.
D'accord. La Suisse, avec Claire Renaud-Claire.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est un livre qui est tout en finesse. Vous nous contez une histoire d'amitié impossible au premier abord, mais qui va devenir une amitié indestructible. On marche d'emblée, vos personnages sont très touchants, on éprouve beaucoup d'empathie pour eux. Et j'admire ce que vous avez fait, c'est que ça ne tombe jamais dans le cliché, parce que on aurait pu sentir quelque chose d'artificiel qu'il n'y a pas. Votre histoire, elle est très vraie, les dialogues sont d'une grande justesse, et je vous dis bravo, votre livre donne de l'espoir et c'est beau.
Voilà, la vie de nos libraires, Geneviève, que vous avez séduit.
Merci.
Alors c'est vrai que vous racontez une belle histoire d'amitié, à ceci près qu'on est justement, quand même parfois, je vais tempérer un peu ce que dit Claire, dans le cliché total. Le jeune musulman radicalisé, la communauté musulmane qui vit dans les quartiers populaires déshérités, la famille juive qui, elle, est dans une belle maison, les études aux États-Unis pour les juifs, l'humoriste Dieudonné, les a priori très négatifs et antisémites de la part des jeunes arabes, la réussite impossible quand on s'appelle Ibrahim ou Rachid, je pourrais continuer encore, la liste est longue, Geneviève Dama, tout est là, comme dans les médias.
Ah non, je suis pas d'accord avec vous, Emmanuel.
Bon.
D'abord, je trouve que l'écrivain n'a pas raconté une histoire généraliste. Ça veut dire que j'ai pris une trajectoire et moi je me suis inspirée de mon quartier, de ce que je vois et j'ai pris une personne et j'ai été en chercher une autre. Je ne dis pas que tous les personnes d'origine juive vont étudier à Boston et je ne dis pas que tous les musulmans de mon quartier sont djihadistes. Mais il y en a un parce que j'en ai rencontré un avec qui je faisais des ateliers, qui revenait de Syrie. Et ma question a été comment cet enfant qui revient, ce jeune qui revient, parce qu'il est revenu à 15 ans, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Et je suis partie de ce questionnement-là. Comment est-ce qu'à un moment, quand on revient en ayant vraiment ingéré une idéologie, quand elle était ici, on pensait qu'elle était d'espoir parce qu'il est parti en Syrie pour sauver, pour rétablir quelque chose, pour créer quelque chose. Et puis en arrivant là-bas, de se rendre compte qu'on est dans quelque chose, c'est la mort, quoi, et qu'on veut s'en aller. Comment est-ce qu'on peut revenir? Et par quoi on peut revenir? Et donc c'est ça que j'ai raconté. Je ne raconte pas l'histoire de tous les musulmans ni de tous les juifs. Ça ne m'intéresse pas.
Non, mais d'accord.
Par contre...
Oui, sauf que vous avez accès quand même votre histoire. Dans votre histoire, il y a les bons et les mauvais, et les mauvais, ce sont les musulmans, là, pour le coup.
Ah bah alors là, si vous pensez ça après avoir lu mon livre, vous avez lu deux pages sur 160.
Ah non, non, j'ai lu les 160, Geneviève, je vous jure.
Non, non, parce que c'est pas ça, parce que la maman de Ibrahim...
Oui, ils font des efforts, les parents d'Ibrahim font des efforts, c'est vrai, mais ça ne suffit pas à équilibrer.
Mais... Je suis pas d'accord avec vous.
Bon.
Je suis pas d'accord avec vous. Quand vous entendez la voix de Ibrahim, on est vraiment, enfin, on voit que c'est quelqu'un qui cherche, qui lutte, qui est quelqu'un qui essaye de créer des liens, qui essaye de s'en sortir. Et je trouve que, voilà, chacun a ses trajectoires, mais c'est pas parce que quelqu'un est musulman et qu'à un moment il a été radicalisé que c'est foutu. C'est pas ça que je dis.
Bah là, c'est le cas. Oui, c'est ça, bah si. Oui, là, c'est le cas.
Non, il y a une donnée que vous ne prenez pas en compte à un moment. Il n'est pas foutu parce que il a été radicalisé et que il est musulman. À un moment, ce qui est très lourd, c'est qu'il a harcelé. Il a harcelé continuellement. Et moi, dans les histoires de jeunes harcelés, vous savez bien qu'à un moment, la première action, on prend sur soi, on veut protéger la famille, on dit qu'on va s'en sortir, on va y arriver, on lutte. Et à un moment, on peut craquer. C'est ça que je raconte. Il faut pas amalgamer. C'est pas parce que, c'est parce qu'on est harcelé qu'à un moment, on peut perdre pied. Mais c'est pas parce qu'on est musulman, c'est pas parce qu'on est juif, c'est pas parce qu'on est catholique, c'est pas parce qu'on habite dans un beau quartier. Il y a des gens, enfin, on connaît toute l'histoire de gens qui sont nés dans des quartiers très pauvres et qui ont des destinées fulgurantes parce que c'est des gens qui ont du ressort, qui ont rencontré de bonnes personnes. On voit qu'autour d'Ibrahim, il y a plein de gens qui essayent de l'aider. C'est pas quelqu'un qui est seul, c'est pas quelqu'un qui n'est pas aimé. C'est pas ça, c'est qu'à un moment, il rencontre plus fort que lui et le harcèlement, vous savez ce que c'est.
C'est
insidieux, c'est répétitif, c'est comme une goutte d'eau qui vous tombe tout le temps dessus et à un moment, on peut imploser.
Oui, c'est ça. Il y a en fait le frère de l'un de ses amis qui va le harceler parce que cet ami-là, il est allé en prison. Enfin, on va pas tout raconter, mais en partie à cause d'Ibrahim. Voilà, c'est une façon de le sauver aussi parce que grâce à ça, il est pas parti, lui, en Syrie. Mais le frère lui en veut beaucoup.
Voilà. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que ce serait trop beau de dire que parce que Jackie est juif et qu'il vit dans un beau quartier, il y a aucun souci à se faire pour lui. On sait bien, quand même, Emmanuel, que c'est pas l'argent... n'est pas directement lié au bonheur, au fait de trouver sa voie, au fait de trouver sa place, d'avoir des amis.
Mais c'est le décor que vous posez. Mais Geneviève, c'est le décor que vous avez posé. C'est évident, ce que vous dites, vous avez raison, c'est vrai. Mais c'est le décor que vous avez posé.
Oui, mais vous avez vu ce qu'ils en font de ce décor-là. L'un et l'autre, ils le subliment, ils font exploser les... Donc je ne suis pas d'accord avec
vous. D'accord, mais c'est bien.
Mais vous avez bien le droit de penser ce que...
Ah non, je ne pense pas, je me pose la question. Je me pose juste la question parce que vous avez un décor, effectivement, qui est très proche de ce qu'on voit en ce moment dans les médias, effectivement. effectivement, on le critique, on le reproche aux médias, ça, on dit toujours la même chose. Et c'est vrai qu'il y a une communauté qui se sent parfois lésée et que les jeunes musulmans commencent à être agacés d'avoir toujours cette image négative. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, moi, ce que je veux dire aussi à travers ce roman, c'est pas parce qu'il y a toutes les interrogations. Qu'est-ce qu'on va faire des retournises? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a une place pour eux.
C'est vrai.
Il y a une place dans cette société.
C'est ce que vous faites.
Et ça,
en tout cas,
c'est ce que le livre dit.
Oui,
aussi.
C'est vrai. Bon, en tout cas, ce roman est très fluide, Geneviève. On ne lâche pas. Vous avez réussi, comme ça, dans une langue moderne, à nous faire entrer dans leur personnage. Merci beaucoup, Geneviève Dama.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, vous avez l'avis de nos libraires, notre petit débat. C'est à vous qui nous écoutez d'aller lire ce livre et de vous faire une opinion, finalement. Jackie est paru chez Gallimard. À bientôt, Geneviève.
À bientôt.
Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour.
On parle de votre livre autobiographique dans un instant. On a choisi aussi des séquences musicales pour illustrer cet entretien. En voici une première avec une chanson qui vous caractérise parfaitement. On dit souvent que la voix est un instrument de musique. Pour beaucoup, qu'on ne nommera pas, c'est plutôt la musique qui porte leur voix. Mais vous Yves, vous réussissez à placer comme ça votre voix de telle façon qu'elle devient un véritable instrument. C'est d'une précision redoutable et toutes vos intonations sont justes. Alors suspendons le temps ensemble, arrêtez ce que vous faites et écoutez ce titre d'Yves Dutheil. Voici l'écritoire dans la librairie francophone.
Le jeune homme écrivait, penché sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare, et les mots se suivaient comme le fil des ans, sans jamais s'arrêter un instant. Le jeune homme écrivait, penché sur sa mémoire, le regard éclairé d'une lueur d'espoir, et les mots se posaient comme font les flamants dans sa tête et sur le papier blanc. Et les mots se posaient comme font les flamants, sans jamais hésiter un instant. Et le monde tournait pourtant, et le monde tournait pourtant. Le bonhomme écrivait, penché sur l'écritoire, le soleil en tombant desséchait l'encre noire, mais les phrases coulaient comme autant de torrents, sans jamais se tarir un instant. Le bonhomme écrivait, penché sur son histoire, ses rêves d'autre vie, ses rêves d'autre gloire. Et les mots racontaient le fil d'un autre temps, dans sa tête et sur le papier blanc. Et les mots racontaient le fil d'un autre temps, sans jamais se tromper d'un instant. Mais le monde tournait pourtant. Mais le monde tournait pourtant. Le vieil homme écoutait, courbé sur son grimoire, le regard fatigué dans la pâleur du soir. Mais les mots se taisaient comme font les tourments, sans jamais disparaître vraiment. Puis enfin il dormait, tombé sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare. Et les mots s'envolaient comme font les flamants de sa tête et de son papier blanc. Et les mots s'envolaient comme font les flamants, sans qu'il sache ni pour qui, ni pour quand. Et le monde tournait pourtant. Et le monde tournait pourtant.
Voilà Yves Dutheil, l'écritoire. Parmi votre répertoire incroyable, c'est le titre qu'on a choisi de diffuser. Ça vous va?
C'est très émouvant pour moi.
Pourquoi?
Parce que il vient de m'arriver quelque chose avec cette chanson, une rencontre avec Didier Van Coverlaert.
Oui, qu'on connaît bien, qu'on salue.
Et bon, je le connaissais comme auteur, comme ça, mais pas en profondeur. Et en fait, j'ai entendu rendre hommage à cette chanson en disant, mais cette chanson, c'est la chanson des écrivains.
Oui.
Et tout d'un coup, cette chanson a pris un relief incroyable dans mon esprit parce que j'ai retrouvé dans les titres des livres de Didier Van Coëlaert toutes les préoccupations qui sont les miennes. C'est-à-dire la force de l'impossible, la puissance de la douceur. Et puis même son dernier livre qui parle des arbres.
Oui, et des animaux, là.
Et des émotions.
Il vient de sortir un livre sur les animaux.
Enfin, les émotions, des animaux. Voilà, oui. L'émotion des plantes. Et du coup, voilà, cette chanson, je suis extrêmement touché, en fait, que vous ayez choisi celle-là.
Ah ben voilà, c'est moi qui l'ai choisi, hein, j'avoue, j'assume le choix.
Vous avez bien fait.
Bon, allons-y, on va parler de votre livre, Yves Dutheil.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Yves Dutheil est dans la librairie pour son livre autobiographique Chemin de liberté. Vous racontez tant de choses dans ce livre. Vous dites presque tout sans détour. Il y a beaucoup d'hommages, d'anecdotes et une galerie de portraits. On dirait que vous avez vécu sans trop réaliser sur le moment les rêves de votre vie.
Oui, ça se passe un peu au hasard des rencontres, de la croisée des chemins. Et jamais on imagine quand on commence à écrire, en fait, qu'on va rencontrer des gens aussi célèbres, aussi intéressants, aussi passionnants, de De Vos à René Barjavel, en passant par des
Brassens,
Félix Leclerc, Véronique
Sanson. Son soutien, oui.
Voilà, et qui vous adoube d'une certaine
en plus,
manière.
Oui, oui.
donc c'est, oui, j'ai raconté parce que j'avais à cœur de livrer, non pas ma vie, mais ce que j'avais vraiment envie de partager avec les gens qui ont aimé mes chansons et leur expliquer pourquoi cette chanson est née et dans quel contexte. Toutes les aventures qui nous sont arrivées, aventures humaines avant tout, mais aussi des épreuves, des rencontres totalement improbables. Des gens avec qui j'aurais jamais imaginé pouvoir fraterniser et avec qui ça me rappelait l'histoire de ce livre de ces deux personnages antagonistes qui se rencontrent parce qu'ils sont conscients tout d'un coup qu'ils ont beaucoup plus en commun que tout ce qui les sépare.
Ce qu'on disait avec Geneviève Dama tout à l'heure. Alors c'est vrai que le jeune poète qui chantait des ritournelles est devenu comme ça un grand artiste célébré dans la francophonie. Et c'est vrai que vous avez porté à votre manière la francophonie. On est ravis de vous accueillir ici. Alors en lisant ce livre, parce qu'il y a plein de choses, en fait, Yves Dutheil. Vous racontez tellement de choses. Certains vont dire que vous étalez un peu vos succès et vos honneurs. Et c'est vrai, hein, soyons honnêtes, que vous étalez un petit peu. Mais vous qui étiez si discret jusque-là, vous prenez le risque de la critique encore.
Non, pas du tout, parce que j'assume tout ce qui m'est arrivé, parce que je ne l'ai jamais cherché. Oui. Et donc, quand je le raconte, je parle très rarement à la première personne. Je raconte, en fait, le contexte de ce qui est arrivé, parce que ça apporte un éclairage différent à ce que j'ai pu écrire. Et en parlant justement de ces honneurs dont on m'a quand même couvert, certains sont plus importants à mes yeux que d'autres, comme par exemple le jour où je me suis retrouvé à l'Académie française pour recevoir une médaille de poésie, parce que mon père était sous la coupole avec nous et qu'il a vécu ça. Lui qui avait si peur que je fasse un métier de saltimbanque. Et puis un deuxième moment, celui qui m'est venu à l'esprit quand vous avez dit ça, eh bien ça s'est passé à Ottawa, à la Chambre des communes. Et un député, ce jour-là, comme tous les députés, avait la possibilité de rendre hommage à la langue française, parce que c'était la fête de la francophonie. Et Denis Paradis a fait un discours sur la langue de chez nous, et on avait été invités, nous, à participer à cette session, on était dans le public. J'ai entendu Denis Paradis faire l'éloge de la langue de chez nous, et du travail d'Yves Dutheil, c'était incroyable. Mais surtout, ce qui s'est passé à la fin, c'est une ovation debout de l'ensemble de la Chambre des communes, majorité et opposition réunies. Or, j'ai trouvé qu'il y avait un côté symbolique dans cet événement parce que ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est à rassembler les gens au-delà de ce qui les sépare. Or là, on était, mais dans l'exemple type de ce que j'ai essayé de faire, entre les francophones et les non-francophones qui se levaient ensemble pour saluer la langue française.
Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas vous empêcher de soutenir ce qui vous touche. Quand il y a un incendie qui ravage une partie de la Corse du Sud, vous lancez une association de reboisement. Quand la cause tibétaine vous atteint, vous écrivez une chanson. Et quand vous rentrez du Québec, après un long échange sur la langue française, justement avec Félix Leclerc, vous écrivez cette fameuse chanson « La langue de chez nous ».
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qui qu'il en a gardé toutes les harmonies.
Alors cette chanson va avoir un écho considérable au Québec et même à travers, donc vous l'avez dit, toute la classe politique canadienne. En France, en revanche, la maison de disques dit qu'elle est un peu ringarde, donc ils ne vont pas la porter. C'est incroyable, hein, ça.
Eh ben ça arrive. C'est arrivé déjà pour plusieurs autres chansons. Et je pense qu'il faut toujours un déclic. Il faut un déclencheur et une prise de conscience de quelqu'un qui va... vous savez, c'est comme quand vous passez dans la rue et que vous voyez quelque chose... Pour garder ce quelque chose, et quelqu'un qui passe à côté de vous vous regarde regarder quelque chose et le voit à son tour. Eh bien, si il n'avait pas eu ce regard tourné vers un événement, la personne qui passait à côté de vous serait passée à côté.
Ouais, c'est
et
ça.
Donc, ben voilà, il y a Monique Lemarcy qui un jour a dit mais cette chanson, il faut la mettre en programmation. Et ça faisait un an que le disque était sorti.
Ouais, directrice de programme d'une radio.
D'une radio
privée,
voilà,
privée. Qu'on connaît pas trop.
Pas non, la plus grande radio privée de
non,
France.
Non, la plus grande radio, c'est France Inter
de
en France.
Privée.
Oui, privée, si vous voulez.
J'ai précisé. Mais Monique a toujours suivi ma carrière avec beaucoup de bienveillance, mais là, elle a eu vraiment un moment déterminant.
Oui, c'est une grande dame, faut le dire, hein, parce qu'elle a soutenu beaucoup d'artistes. Elle a été capable, quand même, sur sa radio privée moyenne gamme, de porter des artistes et de dire à un moment, au bout d'un an, alors que la chanson est sortie sur un album il y a un an, de les sortir comme des nouveautés.
Elle avait, fait pareil, comme ça. Elle avait fait pareil pour une autre chanson qui s'appelle Prendre un enfant.
Exact. Ouais.
Donc voilà, je suis très reconnaissant et je constate à quel point l'individu compte dans le succès d'une quelque entreprise que ce soit.
Alors, Prendre un enfant, justement, Yves Duteil. Tout le monde connaît cette chanson. C'est une chanson qui est la chanson des baptêmes au Québec, des adoptions en France, vous dites. Hein. En Belgique, vous écrivez, elle sera l'emblème de la lutte contre la maltraitance des enfants. On l'a même apprise à l'école primaire. Je vais vous faire une confidence et je vais la faire à tout le monde. Je l'ai apprise, moi, à l'école primaire. Elle m'a bien souligné. Votre chanson, mais je l'ai adorée quand même parce qu'il a fallu la prendre par cœur. J'arrivais pas à tout retenir, mais elle est magnifique cette chanson. Mais à partir de ce moment-là, vous avez subi ce que vous appelez la malveillance. Et vous le notez par petites touches dans le livre, c'est très honnête d'ailleurs Yves Duteil, parce que vous dites, voilà, j'ai été un punching ball à un moment alors qu'on m'avait encensé avant. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette chanson-là? Pourquoi on a commencé à ne pas vous aimer, certains en tout cas?
Parce que je crois que j'ai eu un succès un peu trop insolent, en fait, et qui s'expliquait pas, parce que les gens du métier pensent connaître les cheminements du succès. Mais quand ça arrive un peu par le public, c'est-à-dire de façon inattendue, il y a une espèce de réaction de rejet, un peu, et bon, je l'ai vécu comme tel, et puis je l'ai surmonté. Mais ça m'a obligé à sortir de moi-même. En même temps, ça a été assez bénéfique. Parce que ça m'a contraint à me positionner par rapport à l'humain que je suis, entre l'artiste qui écrit des belles choses, jolies, policées, très philosophiquement, très voilà tout ça, et en même temps l'homme qui à qui vous savez, un artiste c'est quelqu'un à qui on dit toujours vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, etc. Et tout d'un coup quand vous en prenez plein la tête, vous vous posez des questions, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il s'est passé que le succès n'est pas très explicable. Et passer devant tous les gens qui m'ont donné envie d'écrire, mais là on parle de Brel, Brassens, Trenet, Piaf, Nougaro, en fait, passer devant tous ces gens-là, même à moi, la légitimité en cause de ça. Et j'ai été obligé de me mettre à la hauteur de ce que j'écrivais, mais en tant qu'homme.
Voilà. Et après, il y a eu autre chose. On va en parler dans un instant, parce que vous allez entrer en politique. Ça va pas aider
ça,
non plus.
En citoyenneté.
Oui, enfin, vous avez été maire 25 ans, Yves. Hein.
Oui, mais sans étiquette.
Oui, enfin, sans étiquette, on va y revenir. On va laisser la parole à la Belgique et au Canada. On commence par qui? Ils ont lu votre livre tous les deux.
Ah, c'est vous qui choisissez.
Bon, Canada, Belgique.
Allez, Canada.
Canada. Allez, allons-y. Josiane Letourneau.
Alors, lire un parcours comme le vôtre, Yves Duteil, c'est une immense richesse. Je vous redécouvre à travers ce récit de vous. Et ce qui m'a séduite d'emblée, c'est cette écriture qui respire la tendresse et la poésie. On y voit le cœur vibrer à chaque ligne. J'ai été particulièrement touchée par la façon dont vous rendez hommage aux aides de votre vie et à ce qu'ils vous ont librement apporté. Vraiment, merci pour ce livre trésor.
Merci.
Livre trésor. La Belgique, Nathalie Clairin, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait, Emmanuel. Moi, j'avais 7-8 ans quand je commençais à vous écouter.
À apprendre la chanson. Prendre un enfant, vous l'avez apprise à l'école ou pas?
Oui, tout à fait, bien sûr, comme presque tout le monde. Et voilà, et puis je vous trouvais vraiment le troubadour, comme je disais, avec une grande classe. Eh bien, c'est toujours pareil. Je suis vraiment impressionnée dans votre livre par le nombre de vos rencontres. Et je dirais un peu comme Renaud, vous allez vraiment vers chacun avec une telle patience et avec des mots d'amour si profonds que parfois il n'est pas toujours facile de les entendre, de les écouter.
Mais tout simplement, je vous remercie de nous emmener comme ça dans les coulisses de vos aventures et je suis vraiment admirative de tous ces détails que vous avez si précieusement rapportés pour nous.
Merci, oui. Ça me touche beaucoup.
Bon, vous rappelez votre carrière Yves Dutheil en 1972, vous signez votre premier contrat d'artiste. Il y a une chanson qui vous a porté bonheur, c'est Virage, qui va vite devenir numéro un des hit parades. Du coup, vous en avez enregistré une version 2021 pour un coffret CD qui vient de sortir en parallèle de ce livre. Écoutez.
Je regarde un instant vers toi. Tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans un coup, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
Voilà, à partir de là, Yves Dutheil, ça part, comme on dit. Régine vous fait venir à Bobino, elle va même vous emmener aux États-Unis avec elle pour l'ouverture de son nouveau cabaret. Vous êtes en smoking, vous êtes très élégant hein, à ce moment-là.
Ah oui.
À New York.
Classe.
À tel point qu'il
y a quelqu'un qui est venu nous commander un whisky. Et que, bah voilà, j'adore ma carrière cette histoire. Américaine s'est arrêtée là.
On vous a pris pour un serveur.
Exactement.
Bon, ça va continuer quand même. Maxime Le Forestier vous fait venir à la radio dans l'émission de Jean-Louis Foulquier. Juliette Gréco va vous inviter à l'Olympia en première partie. Il y a aussi le regretté Philippe Châtel avec vous à ce moment-là. Et toute cette bande va vous épauler l'air de rien.
Oui, on était tous ensemble, on n'arrêtait pas de se croiser avec Karadec, Yves Simon, il y avait Souchon, c'était incroyable, il y avait un foisonnement de chansons françaises et surtout des auteurs-compositeurs, parce que en général, les auteurs écrivaient pour des interprètes et c'était les interprètes qui étaient célèbres. Et nous, on arrivait avec nos cheveux longs et nos jeans. On était des anti-vedettes et on avait fait ce que Monique Lemarcier avait appelé la nouvelle chanson française.
Ouais.
Comme aujourd'hui, il y a la nouvelle scène, etc.
Ouais.
Et ben, voilà, on était là et on se croisait tout le temps. Il y avait une véritable émulation entre nous tous.
Alors pendant 10-15 ans, comme ça, vous menez votre carrière d'artiste et puis un jour, vous devenez maire de votre commune, Précy-sur-Marne. 400 habitants en 1989, plus du double aujourd'hui. Vous entrez en politique, mais sans en être vraiment conscient. Ben, vous dites sans étiquette, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. Citoyen, en fait maire pendant 25 ans, réélu 4 fois.
Mais oui, je pense que la première fois, quand on élit quelqu'un qui est connu, il peut penser qu'il est élu pour sa notoriété.
Oui, oui.
Au bout du quatrième mandat, on peut penser que c'est par son action. Donc ouais. Là, j'ai dû me mettre au diapason, un autre diapason en fait,
oui.
À celui du concret. Un diapason qui sonne pas le creux, qui sonne pas le céleste, qui est vraiment quelque chose de dur. La réalité contondante, chaque matin quand on se réveille, on fait de l'environnement,
ouais.
On fait du social,
ouais.
On fait du réel. Et là, on est confronté à quelque chose auquel les artistes en général sont rarement confrontés. Parce que quand on vous pose des questions en tant qu'artiste, vous répondez poésie, musique.
Oui, ben
alors
oui.
Que quand on vous demande de parler d'un permis de construire, là, il faut donner des vraies réponses.
Il faut être sérieux. Et là, vous vous rapprochez de la classe politique, Yves Dutheil, avec Jacques
oui.
Chirac. Vous le citez plein de fois, Jacques Chirac, qui deviendra président de la République, évidemment. Et là, vous vous collez une étiquette. Même lui, vous dit, tout le monde sait que tu es chiracien, Yves.
Oui, c'est vrai.
Arrête de dire que tu es sans étiquette, ça veut rien dire.
Ben, à ce moment-là, en fait, l'explication de cette phrase, c'est que tout le monde était quand même à U et à Dia, entre Balladur, Chirac, personne ne savait exactement où était la géopolitique de ce combat des chefs. Et tout le monde essayait de m'attirer un peu vers l'un, vers l'autre, etc. Et je lui ai dit, mais je sais même plus où aller si on m'invite à déjeuner. Je veux pas te trahir, etc. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, tout le monde sait que tu es Chirac. Hein. Tu vas partout.
Mais vous voilà. Êtes un artiste de droite.
J'ai été catalogué comme tel, mais je ne l'ai jamais
un peu,
été.
Non,
non, pas du tout.
Bah, c'est pas honteux, hein.
Non. Je dirais pas de droite et encore moins de gauche.
Oui.
Je ne suis ni...
Il y avait Barbara dans votre village.
Absolument.
Oui, elle votait à gauche.
Oui.
Elle n'aimait pas trop vos convictions politiques, si ?
Non, on n'a jamais parlé de ça.
Ah non,
jamais. D'une part, et d'autre part, on s'entendait très bien, contrairement à ce que certains ont voulu induire du fait de notre différence.
Oui.
J'étais simplement un citoyen qui essaye d'aider des hommes politiques qui ont besoin et souvent envie que des gens de la société civile
viennent
leur dire comment ça se passe sur le terrain.
Elle a voté pour vous, Barbara, vous croyez ?
Oui, je pense.
Ah oui ?
Oh oui.
Ah oui, comme quoi.
Voilà.
Vous avez appris la danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, pas la danse, c'est comme ça.
venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. Vous savez, la tarentelle.
Il y a dans ce livre un album et un titre que vous citez souvent, car cet album a été le plus important à vos débuts, c'est le troisième, c'est Tarentelle. Vous la chantez encore cette chanson?
Non.
Le rythme, il est rapide, hein.
Bah oui, mais c'est pas ça qui me fait peur. Non. Je pense que j'ai été un peu tatoué par ce côté un peu Prime Sautier, un peu poétique, bucolique, que je dirais. Alors, cette chanson, je précise, parce qu'on est dans une émission d'écrivain.
Oui.
6 mois de travail sur le texte.
Mais bien sûr.
Et quant à la guitare, les petits gimmicks de guitare, c'est des centaines.
C'est très
et des
dur. Elle est très difficile, voilà. Cette chanson. Ouais.
Donc c'est du boulot, mais je suis aussi fier de cette chanson que des autres. Et simplement, j'évite de me tatouer moi-même à travers l'histoire de mes chansons. Et je pense que pour chanter Dreyfus, pour chanter pour les enfants du monde entier,
la tibétaine,
pour chanter la tibétaine, c'est difficile de chanter le petit pont de bois ou la tarentelle juste avant, quoi.
Mais pourtant, si elles existent, elles sont bien, ces chansons, Yves Duteil.
Je les adore.
Mais oui, moi aussi. Bon, allez, on va
attendez,
terminer.
Je me les chante à moi-même pour le plaisir quand je suis tout seul.
Bon, on vous doit, hein, quand même, en France, le quota des 40% de chansons francophones sur les radios. Il faut pas oublier que vous avez été là à cette époque, c'était sous Chirac, et vous vous désolez aujourd'hui de l'exploitation par les plateformes d'écoute en ligne de tout le répertoire mondial de la musique au détriment des artistes. C'est un vrai combat. Vous évoquez aussi la Corse dans votre livre, votre refuge. Vous dites une belle phrase: ce qui m'a fait jeter l'ancre en Corse, ce sont les Corses.
C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des gens qui ont un sens de l'accueil, de la famille, de l'hospitalité, mais aussi un talent extraordinaire pour savoir faire du miel, savoir faire du vin.
Il y a un apiculteur de Bavay, là, qui est dans le...
Il y a notre ami Jean Orsatti, qui nous a quittés il y a quelques mois, et qui me faisait penser à l'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono. C'était un homme qui défendait la nature et qui était un de ces soldats anonymes qui font beaucoup à titre individuel pour la défense de l'environnement.
Merci beaucoup Yves Duteil. Merci d'être venu dans la librairie francophone. Chemin de liberté est paru aux éditions de l'Archipel. On part en Corse justement donc dans un instant avec la suite de notre reportage à Ajaccio dans la maison familiale de Napoléon. À bientôt Yves.
À bientôt, merci Emmanuel.
Merci. Et ce sera avec la commissaire d'expo Odile Bianco, après une nouveauté musicale signée Ours, le fils d'Alain Souchon, que vous connaissez, et oui. M, le fils de Louis Chédid, dans la librairie francophone.
Un cadavre exquis, un revolver. Dans les journaux, l'homme est cruel. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens.
On laisse.
C'est idiot. Comme un duel. Qui est la plus bête? Qui est la plus belle? Petit jeu.
Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis sûr.
sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Petit jeu ne jouait pas à ce petit jeu.
Allez, chante!
C'était le nouveau titre de Ours avec M, Petit Jeu, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Napoléon Bonaparte est mort il y a 200 ans tout juste. Nous sommes allés dans la maison de son enfance et de sa jeunesse à Ajaccio. Un grand entretien-reportage exceptionnel en deux parties. Second épisode aujourd'hui avec Odile Bianco pour la suite de cette balade dans cette vaste demeure. Avec aussi l'exposition La mémoire des Bonaparte en Corse, les statues, qui a été lancée cette semaine. Bonjour Odile Bianco.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition au musée Napoléon Bonaparte. On est dans un espace, dans une salle très particulière, très emblématique là.
Oui, effectivement, c'est la chambre du retour d'Égypte. Et c'est là que Napoléon a passé sa dernière nuit en Corse en 1799, avant d'avoir rendez-vous avec son destin politique et de repartir à Paris pour le coup d'État du 18 Brumaire.
Avec un lit qui me semble... très court.
Très court, oui, effectivement. Le lit n'est pas en rapport avec la taille de Napoléon. La plupart des enfants ou des gens qui voient ce lit disent « mais Napoléon était petit », donc ce qui accrédite un petit peu Léon dit. Et en fait, Napoléon était dans une taille tout à fait normale pour l'époque. Il mesurait environ 1m68, 1m69. Et le lit est court parce que tout simplement, à l'époque, les gens dormaient pratiquement assis. C'est la Révolution, en fait, qui va mettre un terme à cette pratique. Jusqu'alors, on pensait que la position allongée attirait la mort. Et à partir de la Révolution, on abandonne ce genre d'idée, mais malgré tout, ça va perdurer encore pendant quelques années, d'où le lit taillé un peu court. Pour faire le lien justement avec notre exposition, vous avez ici un buste de Bonaparte, premier consul. Il est anonyme, mais bon, pourquoi dans cette pièce? Parce que comme on l'évoquait précédemment, c'est la chambre du retour d'Égypte. Et c'est là, en 1799, que Napoléon va, après cette chambre, après ce passage en Corse, Napoléon va partir sur le continent et il va prendre le pouvoir et il va être premier consul.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il rentre d'Égypte, oui. Après une mission, une bataille aussi. Oui. Il arrive ici à Ajaccio, il fait escale pendant 3 jours et il repart. Et quand il part, il ne reviendra plus jamais ici.
Exact. C'est la dernière fois, en fait, qu'il séjourne dans cette maison. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire amusante par rapport à ce séjour. C'est qu'il va être acclamé par la population lorsqu'il va revenir d'Égypte. Les rues vont être pavoisées et il va lui-même organiser un festin, un banquet d'une 40aine de personnes dans la maison. Vous avez vu la grande galerie tout à l'heure. Et dans cette grande galerie, donc, les gens vont être reçus. Et Napoléon, à un moment donné... eh bien, il va devoir s'éclipser parce que son bateau l'attend et il faut qu'il reparte sur le continent. Donc, il va laisser sa redingote posée sur une chaise de manière à ce que tout le monde pense qu'il est encore là. Et il va s'éclipser par la trappe qu'il y a dans une des chambres du premier étage. Et de là, il va rejoindre la rue et le port.
Elle y a encore la trappe en bas ?
Elle y est encore.
Alors, allons voir la trappe.
Allons la voir.
Alors, c'est vrai qu'en 1793, Napoléon Bonaparte, qui est obligé comme ça de quitter sa ville avec sa famille, et il dira « ce pays n'est pas pour nous ». Il a une rancune tenace, terrible envers la Corse, qui va durer des années, et en sens inverse aussi, les Corses ont une rancune vis-à-vis de Napoléon.
Alors ceci dit... ça va peut-être durer, mais quand il va être au pouvoir, il va quand même promulguer des décrets pour, faire rentrer un petit peu Ajaccio dans l'ère moderne, mais presque. Il veut que des travaux soient faits pour que la ville soit alimentée en eau potable. Il va promulguer un certain nombre de décrets. Donc, il n'oublie pas quand même sa ville natale.
Et pourtant, il n'en fait pas assez, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on avait espéré que Napoléon fasse de ce territoire un territoire autonome, sous l'égide de la France, mais autonome. Il ne va pas jusque-là, il en fait un département.
Alors, il va regretter, hein, effectivement, de ne pas avoir fait grand-chose pour la Corse. Mais malgré tout, il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a quand même initié un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'après, ben, ce sera Napoléon III qui va concrétiser tout ça et aller même au-delà.
Dans les cahiers de Sainte-Hélène, en 1816, il écrit « J'ai été ingrat pour les Corses, je me le reproche, j'aurais dû faire davantage. » Voilà, on arrive dans un grand salon,
voilà, donc là, c'est la grande galerie.
Avec un parquet magnifique, hein, d'époque.
C'est ça, et c'est cette grande galerie en fait où Napoléon a laissé sa redingote.
Alors, elle est où la trappe ?
Alors, elle est deux chambres plus loin. Nous allons y aller, oui.
C'est magnifique, hein, cette galerie.
C'est une magnifique galerie. En fait, à l'origine, c'était une terrasse. Il y avait toute une terrasse et les travaux ont été faits bien avec les indemnités perçues en 1797-99. Et sur la terrasse, les parents de Napoléon lui avaient construit une petite cabane pour qu'il puisse justement étudier loin du bruit causé par ses petits frères et ses petites sœurs. Et qu'est-ce qu'il étudiait dans cette cabane ? Eh bien, l'histoire et les mathématiques.
Eh oui, parce qu'il a des dispositions particulières pour les mathématiques.
Oui.
Et du coup, pour faire des batailles, pour mener des batailles, il faut être stratège et il faut des mathématiques.
C'est ça. Pardon.
Vous avez cogné la porte.
C'est rien.
Donc là, on a une autre petite chambre.
Alors là,
qui était là ?
C'était les chambres du fond et c'était les chambres des garçons. Mmh. Voilà. Et là, vous avez la fameuse trappe.
Ah, la fameuse trappe, effectivement.
La fameuse trappe qui rejoint en fait les caves. Vous savez, celle où il y a la pièce, notamment où il y a l'arbre généalogique.
Ouais.
Eh bien, donc là, il y avait un escalier de bois qui permettait de descendre. Et ensuite, un accès direct dans la rue.
Dans la rue.
Et le port n'est pas très loin.
Le port est juste à côté.
Voilà.
Juste à côté,
oui.
Avec le quartier à Saint-Charles, hein, ici, la citadelle qui est juste derrière,
oui.
Le port, la mer et la vieille ville.
Oui.
Allez, on va dans les salles d'expo maintenant, puisque on a cette chance, hein, de visiter le musée, l'exposition, avant même la réouverture des musées ici en France, et bien sûr ici en Corse, à Ajaccio. Avec une exposition fondée sur quel thème cette fois ?
Alors en fait, c'est la statuaire commémorative, hein, c'est la statuaire publique au 19e siècle, mais c'est la statuaire autour de l'image de Napoléon et autour de la mémoire de Napoléon, puisque à Ajaccio, le premier monument, et même en Corse en général, hein, le premier monument à la gloire de Napoléon a été érigé à Ajaccio en 1850. Et c'est celui que l'on peut voir sur la place en face de la mairie, la place Foch. C'est le Napoléon, donc premier consul. Et les Ajacciens l'ont installé tout de suite juste en face de la mairie.
Quelle est la statue que vous conseillez d'aller visiter ? Pour ceux qui viendront un jour à Ajaccio ou qui habitent pas très loin, qu'est-ce qu'on peut voir ? Quel est votre préféré ?
Alors, le laboureur, effectivement, face à la mairie, c'est une œuvre exceptionnelle. Alors, beaucoup de touristes viennent voir en disant que c'est la statue de Jules César,
oui.
Mais non.
C'est vrai qu'on dirait, oui.
C'est Napoléon.
Oui, c'est Napoléon ici à Ajaccio.
Napoléon à Ajaccio. Mais
bon.
C'est vrai qu'on a d'autres monuments et qui sont quand même assez emblématiques de l'île.
Tout est encore là, l'histoire est encore là.
Mais oui, et elle n'est pas seulement insulaire.
Oui, c'est vrai. Et oui, elle déborde.
Elle déborde.
Dans le monde entier, pour le coup.
Complètement. On est vraiment cosmopolite.
Merci beaucoup, Odile Bianco. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Le
Le catalogue de l'exposition qui se tient en ce moment à Ajaccio et qui a ouvert ses portes mercredi dans le marbre et l'airain, la mémoire des Bonaparte en Corse, les statues, est paru chez Albiane. D'autres livres, essais, beaux livres, jeunesse et BD sont sortis récemment en librairie sur Napoléon. Notre sélection est à retrouver sur notre site internet et cet été, dans la librairie francophone estivale, nous vous proposerons un reportage dans la vieille ville d'Ajaccio sur les traces de Napoléon.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires, ils adorent ça, et vous aussi. Un coup de gueule en France, Thomas Auxerre.
Eh bien oui, Manuel, un petit coup de gueule cette semaine. Alors ça concerne une toute petite partie de notre voisinage qui parfois abuse un petit peu de notre gentillesse, si vous voulez, et se fait livrer ses achats sur Internet chez nous. Alors même quand ils sont en vacances. Alors c'est ponctuel, c'est assez rare, mais quand même, je glisse un petit message radiophonique au lecteur de l'Amandier qui habite juste à côté et qui abuse donc. Ouais. Alors même si on est super sympa, eh ben on n'est pas un point relais, voilà.
Oui, bon, vous rendez service, c'est sympa, après ils achètent des livres chez vous.
Ouais.
Ok, bon, allez, ça lui plaît pas. Un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Ah oui, et quel coup de cœur pour la poésie du quotidien d'Amélie Prévost dans Kamikaze du vendredi aux éditions Planète Rebelle. On traverse ce recueil comme on traverse la semaine en explorant les jours, les lumières, les ombres. C'est un livre qui explose de couleurs en surface et qui déploie toutes les teintes de l'âme au fil des pages. En fait, Amélie Prévost est connue pour ses combats de slam radiophonique, mais je vous assure que sa voix de poétesse est tout aussi juste et vibrante quand on la lit. Ah. Alors, lisez-la.
Bon, très bien. Amélie Prévost, Kamikaze du vendredi aux éditions Planète Rebelle. Un coup de cœur en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, un coup de cœur pour la jeunesse, Emmanuel. Moi, j'aime quand l'histoire reprend des faits réels, surtout pour les adolescents.
Oui.
J'aime quand le récit est engagé. J'aime quand il y a plein d'aventures, quand le dessin est convaincant. Eh bien, c'est tout ça à la fois, ce deuxième tome de la bande dessinée Black Scow. C'est l'histoire de Bessie Coleman, qui est la première femme dans le monde d'origine noire africaine et amérindienne à passer son brevet de pilote aviateur en 1921. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, nombreux sont ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Alors, la BD est l'œuvre du dessinateur Alain Henriet et du scénariste Yann, et ça vient de paraître aux éditions Dupuis.
Oui, formidable Yann au scénario. Merci beaucoup Nathalie. Un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud.
Oui, Emmanuel. Vous savez qu'un des propres du libraire, c'est de chercher de la place pour mettre en vue les titres que nous recevons et de constater qu'on n'a jamais assez de place.
Ouais.
Et puis, un des autres propres du libraire, c'est de laisser toujours une pile de livres non classés. Eh bien, en ce moment, on nous propose de plus en plus des livres en dépôt ou des livres auto-publiés sur des plateformes virtuelles. Bref, qui ne passent pas par le réseau normal en tous les cas. Et on n'aime pas dire non. Mais comme on ne sait déjà pas où classer les livres que nous recevons, eh bien la réponse, elle est quand même non.
C'est la pagaille dans la librairie, quoi.
Voilà,
c'est ça. Bon, merci pour ce coup de gueule, Claire. On termine avec un titre francophone de l'outre-mer. Aujourd'hui, on écoute le groupe tahitien Veiteani avec un extrait de son nouveau titre. De Omaï, interprété par le groupe tahitien Veiteani. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Charles de Cilia et Pauline Naverdure à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Juliette Drone en France, Nicolas Julliard et Sophie Grécoutchou en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Le grand voyage francophone continue la semaine prochaine avec Patrick Chamoiseau et le Suisse Harry Koumrouyan, entre autres. Bonne semaine, bon week-end à tous. Salut.